vous écoutez RFI, il est 8h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Andréane Mélard.
Et le journal de Gaëtan Plenet tout de suite. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Des corps étendus dans la rue, des blessés couchés par terre, les images des autorités de Soumy en Ukraine sont sanglantes.
La ville a été frappée par la Russie hier, au moins 34 morts, on est en direct de Kiev dès le début de cette édition. Autre frappe israélienne cette fois, elle a visé hier l'hôpital Al-Arli de Gazaville. À quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait annoncé vouloir étendre son offensive dans l'enclave. Elle étend aussi celle en Cisjordanie occupée et ça inquiète les déplacés dans les camps près de Naplou. Reportage à suivre. Dans ce journal également le Gabon et Brice Clotaire-Oligui Nguema donné vainqueur de la présidentielle. Le Soudan, alors que les FSR disent avoir pris le contrôle du camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Et puis il était le dernier représentant de la génération dorée de la littérature latino-américaine. Dans les années 60 et 70, l'auteur hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est mort hier à Lima. Il avait 89 ans.
Le patron de l'ONU se dit sous le choc. Le futur chancelier allemand dénonce un crime de guerre grave, délibéré et voulu, horrible, dit Donald Trump. Concert de réactions internationales après la frappe russe d'hier à Soumy.
La plus meurtrière de ces derniers mois dans une zone civile du pays. Au moins 34 morts et plus d'une centaine de blessés. Emmanuel Chaz, on vous retrouve à Kiev où vous êtes notre correspondante. Énième frappe russe, Emmanuel, contre les civils ukrainiens. Comment on réagit dans le pays ?
Bien écoutez, les images de ce centre-ville de Soumy détruit n'ont pas fini de choquer ici en Ukraine où plusieurs régions ont décrété un jour de deuil pour les 34 victimes de l'attaque d'hier sur une zone, comme vous l'avez dit, une zone urbaine fortement peuplée. Parmi ces victimes, il y a deux enfants ainsi qu'une musicienne de l'opéra symphonique de Soumy et ces morts viennent rappeler que les civils sont les premières victimes de ces frappes russes et sur des qui tombent sur des zones densément peuplées. Et ces attaques à répétition, vraiment, elles choquent puisque celle-ci intervient à peine une semaine après la mort de 20 personnes à Kriviri, donc ça démoralise la population. Et il y a aussi un sentiment d'impuissance à contrer ce genre de frappe, d'où les appels répétés de Kiev à ses alliés pour disposer de plus de moyens pour sa défense aérienne. Hier, le renseignement ukrainien a annoncé avoir identifié les brigades russes responsables de ces frappes, une manière aussi pour l'Ukraine de montrer au reste du monde que Kiev entend donner une suite, notamment sur le plan légal, à de telles attaques, alors que les drones russes ont continué à tomber en Ukraine la nuit dernière, avec entre autres des attaques sur Odessa, Kharkiv et Zaporizhia.
Merci Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Et seuls des salauds peuvent faire ça, a quant à lui réagi le président ukrainien. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky s'exprimait sur la chaîne américaine CBS. Poutine veut nous détruire complètement, a-t-il affirmé. Vladimir Poutine, un usurpateur et un assassin selon Vladimir Karamurza, opposant russe, ancien prisonnier politique. Il sera le grand invité de la rédaction avec Arnaud Pontus après ce journal.
À Gaza, la frappe israélienne d'hier sur l'hôpital Al-Arli de Gazaville n'a pas fait de victime directe.
Mais une victime indirecte. Annonce l'Organisation mondiale de la santé, un enfant mort après avoir été privé de soins alors que c'était l'un des derniers hôpitaux encore en fonction dans l'enclave. L'armée israélienne affirme que l'établissement abritait un centre de commandement du Hamas et elle qui, la veille, avait annoncé vouloir étendre son offensive à Gaza.
Autre opération israélienne, elle aussi étendue, l'opération Mur de Fer.
Dans le nord de la Cisjordanie occupée cette fois et après Jenin et tout le Karem, c'est à Naplouse que l'inquiétude grandit. La ville est bordée de plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Celui de Balata a été pris d'assaut la semaine dernière, plusieurs dizaines de blessés déplorés. Dans le camp d'Alaïn, à l'ouest de la ville, on craint d'être la prochaine cible. Reportage d'Amira Swilem.
La vie semble suivre son cours dans le camp d'Alaïn. Mais pour Hanan Ahmed, elle s'est arrêtée cette année, un jour de janvier.
Là, je suis chez mes parents. Avant, j'habitais à Jenin, mais j'ai quitté ce camp après que l'armée israélienne a tué mon mari. Ils ont bombardé notre maison avec deux missiles. Il y avait 6 personnes à l'intérieur. Elles sont toutes mortes. Tout cela, ce sont les conséquences de la colonisation et de la lutte armée. Tu marches tranquillement et tu peux te prendre un missile, que tu sois combattant ou pas. Tout le monde est menacé.
Déjà déplacée une première fois, cette mère de 3 enfants craint de l'être à nouveau, alors qu'Israël a annoncé étendre son opération. Cette éventualité est dans tous les esprits ici. Ibrahim Nemer est membre de l'association qui représente les réfugiés auprès des responsables palestiniens et d'antennes de l'ONU. Il aimerait que les autorités anticipent les risques.
On a bien vu ce qu'il s'est passé à Tul Karem, à Jenin, à Nour Shams, à Gaza. On est obligé d'en tirer des conclusions. Si les habitants de 80 ou 85 maisons du camp sont poussés au départ, il faudra bien les loger quelque part. Où vont-ils aller ? Qui sera responsable de les reloger ?
Alors que le camp abrite environ 9300 personnes, Ebrahim Nemer a d'ores et déjà conscience que tout plan de relogement ne pourra offrir qu'une bien précaire protection aux habitants du camp. Amira Suilem, de retour du camp de Laayne à Naplouse, RFI.
À plus de 40 milliards de dollars d'exportations chinoises vers les États-Unis le mois dernier. C'est presque 9% de plus sur un an. C'était plus ou moins attendu. Les entreprises chinoises ont voulu mettre les bouchées doubles avant l'entrée en vigueur des droits de douane américains. On en est à 145%, même si les produits high-tech comme les smartphones et les ordinateurs ont été exemptés. Aucun pays n'est tiré d'affaire et surtout pas la Chine, prévient Donald Trump, qui promet d'annoncer dans la semaine des surtaxes sur les semi-conducteurs.
Deux résultats d'élections présidentielles qui ont eu lieu ce week-end. En Équateur d'abord.
Et c'est le sortant Daniel Noboa qui a été déclaré vainqueur par l'autorité électorale avec 56% des suffrages, même si tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés. Son adversaire de gauche, Luisa González, prévient, elle ne reconnaît pas les résultats et demande un recomptage des voix.
Et présidentiel aussi au Gabon.
Oui, c'était samedi et les résultats là aussi provisoires donnent le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, largement, très très largement devant, plus de 90% des voix. Les autres candidats ont 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle.
Ça fera 2 ans demain que la guerre civile éclatait au Soudan.
Et RFI consacrera une édition spéciale demain. Et la violence a franchi un nouveau cap au Darfour. Au moins une centaine de civils tués depuis vendredi, selon des sources humanitaires locales, après une série d'attaques attribuées aux forces paramilitaires du général Emeti. Elles tentent de consolider leur emprise au Darfour. Principale cible, le camp de Zamzam, en périphérie d'Al-Fasher, la dernière localité du Darfour à ne pas encore être dans les mains des paramilitaires. Hier, le porte-parole des forces de soutien rapide a assuré que les FSR avaient désormais pris le contrôle de ce camp qui abrite au moins 500 000 déplacés internes. Aucune source indépendante n'a pu le confirmer pour l'instant. Florence Maurice.
Le camp de Zamzam est régulièrement le théâtre d'attaques dans cette guerre, mais depuis vendredi, la violence s'est intensifiée. De sources humanitaires, les paramilitaires ont d'abord bombardé plusieurs heures le site avant de franchir le périmètre du camp par voie terrestre pour lancer un assaut. Parmi les civils tués, 9 travailleurs humanitaires employés de la dernière clinique médicale qui était encore en activité sur le site. Ils ont été abattus, déplore un responsable de l'ONG qui les employait. Selon cette source, des centaines d'abris de fortune ainsi que le principal marché du camp ont également été détruits, alors que Zamzam est déjà déclaré en famine, en raison notamment du blocus instauré par les FSR qui assiège la ville d'El-Fasher. Le bilan total est difficile à évaluer, tout comme la situation exacte sur place ce dimanche soir, car les moyens de communication sont très limités. Samedi, des vidéos montrant des civils tués à Zamzam ont été diffusées par des activistes. Dans un communiqué en réaction, les forces de soutien rapide ont dénoncé une mise en scène, une tentative, je cite, de les criminaliser.
Les relations entre la France et l'Algérie se crispent une fois de plus. L'heure semblait pourtant à la détente la semaine dernière après la visite du ministre français des Affaires étrangères. Mais la diplomatie française déplore qu'Alger demande le départ sous 48 heures de 12 agents français. Selon les services de Jean-Noël Barrot, il s'agirait en fait d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens juste avant le week-end. 3 hommes, dont un employé d'un consulat algérien, suspecté notamment de séquestration et d'enlèvement. Alger en parle comme d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable. La diplomatie française demande à Alger de renoncer à l'expulsion des 12 agents français.
Son génie intellectuel et sa vaste œuvre resteront un héritage durable pour les générations futures. Hommage sur les réseaux sociaux de la présidente péruvienne Dina Boluarte.
Après la mort de l'écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, il avait 89 ans, prix Nobel de littérature en 2010, également membre de l'Académie française. Cet auteur de romans, de théâtre et d'essais était l'ultime géant de l'âge d'or de la littérature latino-américaine, Olivier Roger.
Oui, on n'apprend pas à dominer le monde à travers les mathématiques, mais en lisant les romanciers, voilà ce que disait Mario Vargas Llosa, convaincu du pouvoir immense de l'écriture. Elle fut d'abord le moyen d'échapper à un père autoritaire qui voulait faire de lui un militaire. Elle fut ensuite la manière de raconter la vie, et en particulier sa vie. Son roman le plus célèbre, La Tante Julia et le Scribouillard, narre les aventures d'un jeune écrivaillon qui tombe amoureux de sa tante de 15 ans, son aîné. À 21 ans, Mario Vargas Llosa s'enfuit avec Julia, provoquant un scandale familial. Il la quittera quelques années plus tard pour épouser sa cousine. Entre-temps, il découvre l'Europe et Paris. La France l'a profondément marqué sur le plan littéraire. C'est d'ailleurs à Paris qu'il découvre la littérature latino-américaine et notamment Gabriel Garcia Marquez, l'autre génie des lettres latino-américaines avec lequel il se liera d'amitié avant de se brouiller. Sur le plan littéraire, ce dandy séducteur enchaîne les chefs-d'œuvre. Citons La ville et les chiens, La guerre de la fin du monde, La fête au bouc, une trentaine d'œuvres au total dans lesquelles éclate son talent à décrire les dictatures, les passions ou encore la folie humaine.
Merci Olivier Roger du service culture. de RFI.
Et merci Gaëtan Plenet, c'était le journal 8h10 à Paris. Dans 5 minutes, notre grand invité international, invité exceptionnel ce matin sur RFI, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza. Entretien avec Arnaud Pontus à suivre, mais d'abord on parle guerre commerciale dans aujourd'hui l'économie et le sport tout de suite. Avec du football à la une, Antoine Grenier, la 29e journée de Ligue 1, Lyon confirme sa bonne passe.
L'OL se réveille ce matin au pied du podium après être allé chercher sa 5e victoire en 6 matchs de championnat. Les Lyonnais vainqueurs à Auxerre 3-1 en clôture de la journée, malgré un but du Malien Lassine Sinayoko pour les Auxerrois. Mikotadze, Cherki et Lacazette ont assuré la victoire à l'OL. Les joueurs lyonnais apparus soudés, solidaires à l'orée de ce sprint final. Un état d'esprit souligné par leur capitaine Alexandre Lacazette.
Le coach, il insiste beaucoup sur ça, pour qu'on soit une équipe unie, une sorte une famille sur le terrain et que ça se ressente de l'extérieur. Ça fait plaisir. Je suis content, on a gagné. À chaque fois, on a eu l'opportunité de repasser devant en championnat, on s'est loupé. Ce soir, on l'a fait, donc bravo à l'équipe et c'est bien pour la fin de championnat.
Alexandre Lacazette chez nos confrères de DAZN. Au classement, l'OL est 4e à 2 points de la 2e place. Auxerre est 10e avec 38 unités. Prochain match pour les Lyonnais dimanche face à leur rival Saint-Etienne à Geoffroy Guichard.
Des Stéphanois qui ont arraché un point face à Brest.
Dans une rencontre spectaculaire, notamment en première période, les deux équipes se quittent finalement sur un 3 partout qui permet aux Verts de prendre un point au Havre, largement battu par Rennes 5-1. La lanterne rouge Montpellier s'enfonce elle encore un peu plus malgré les débuts de Zoumana Camara sur le banc. Les Héroletais enregistrent leur 10e défaite consécutive, battue 2-0 par Angers.
En Espagne, Mbappé voit rouge.
L'attaquant du Real expulsé pour un tacle violent sur un adversaire et qui a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant près d'une heure face à Alavés. Les Madrilènes vainqueurs malgré tout 1-0, mais qui n'ont pas préparé idéalement leur quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Mbappé, auteur d'un geste inapproprié, reconnaissait l'entraîneur madrilène. Dans la famille Ancelotti, je demande le fils Davide qui pour l'occasion a remplacé placé sur le banc son père Carlo qui purgeait une suspension.
D'abord, Kylian n'est assurément pas un garçon violent. C'est quelqu'un qui a demandé pardon, qui est conscient de l'erreur qu'il a commise. Clairement, son tacle mérite le carton rouge et il en a payé les conséquences. Je pense que ce sont les nombreuses petites fautes qu'il a subies dans le match qui l'ont fait réagir comme ça. Ce n'est pas la bonne réaction, je ne suis pas en train de l'excuser, mais voilà ce qui s'est passé.
Kylian Mbappé qui risque entre 1 et 3 matchs de suspension.
En tennis, à un mois et demi de Roland-Garros, Carlos Alcaraz imprime sa marque.
L'Espagnol, vainqueur du Masters 1000 de Monte Carlo, 3-6, 6-1, 6-0 face à l'Italien Lorenzo Musetti. 17e succès en 18 matchs sur terre battue pour le joueur de 21 ans qui pointe au 2e rang mondial. De quoi en faire logiquement l'un des favoris majeurs pour le tournoi parisien qui débute le 19 mai.
On termine, Antoine, avec le cyclisme. Mathieu Van Der Poel est décidément le maître des pavés.
Le Néerlandais a remporté la reine des classiques cyclistes. Paris-Roubaix, 3e succès consécutif pour le petit-fils de Raymond Poulidor. Van Der Poel, longtemps accompagné par Tadej Pogacar, mais le Slovène, tombé à 30 km de l'arrivée, franchit finalement la ligne en 2e position pour sa toute première participation à Paris-Roubaix.
Merci Antoine Grenier. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie sur RFI. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Ce matin, on revient avec vous sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump au reste du monde, principalement la Chine, avec beaucoup de revirements. Cette guerre, on le rappelle, les États-Unis taxent désormais à hauteur de 145% tous les produits chinois importés sur leur sol, sauf les produits issus de la tech, exemptés, mais pas complètement, et ça va encore changer dans les prochains jours si on en croit l'administration américaine. Bon, du coup, avec vous, Stéphane, on s'interroge ce matin, comment est-ce que tout ça fonctionne? Quel mécanisme s'applique? Et surtout, c'est presque le principal, combien ça coûte? Pour nous expliquer ça clairement, parce qu'on aime quand c'est clair dans aujourd'hui l'économie, vous prenez l'exemple d'une machine à café.
Oui, car pratiquement tous les foyers américains sont équipés d'une cafetière. L'an passé, ils sont vendus entre 27 et 30 millions sur le sol américain, d'après l'Observatoire de la complexité économique. Et si on prend cet exemple, Andréane, c'est parce que c'est un produit du quotidien, courant, qui est fabriqué intégralement ou en partie en Chine.
C'est donc de Chine que commence le parcours de cette machine à café.
Exactement. La production de cet équipement est sous-traitée dans des usines très très loin des États-Unis. Un atelier va fabriquer le réservoir, un autre la carafe et puis sans être exhaustif, un troisième va produire la plaque chauffante. Particularité, ces fournisseurs ne sont pas forcément tous chinois, mais ils peuvent être d'autres pays asiatiques. Ensuite, Toutes ces pièces détachées qui composent notre cafetière vont être regroupées ensemble sur un site d'assemblage en Chine.
Et de ce site va sortir la machine à café intégralement construite.
Voilà, à partir de là, quand on additionne toutes ces étapes, on sait combien a coûté à peu près la fabrication du produit. On appelle ça son coût de production. Pour en avoir une estimation, on va regarder ensemble le site en ligne AliExpress. Le prix sec de cette cafetière y est en ce moment de $30. Elle va maintenant prendre le bateau, direction un port américain. Ajoutons là $4 de frais de port, prix total donc $34. Et c'est là qu'interviennent les mesures douanières américaines.
Car pour quitter le port de Shanghai, arriver à Baltimore et que la cafetière sorte du cargo, l'importateur doit s'acquitter donc des 145% de droits de douane.
Et cela même si les pièces viennent d'un peu partout. En Asie, on le disait, le produit est chinois, étant donné qu'il a été assemblé en Chine. Un petit calcul nous permet à présent de déterminer le prix de cette machine à café. On l'a dit, sa valeur était de $34. Avec une taxe de 145%, ça va augmenter. Son prix grimpe de 34 à $83.
Et on imagine, Stéphane, que ça ne s'arrête pas là.
Tout à fait. On peut ajouter les frais de logistique, de stockage, de transport et la marge du vendeur. On atteint facilement plus de 100-120$. On est donc très loin de la cafetière assemblée pour $30 dans une usine chinoise. L'impact est donc réel pour le consommateur américain, car si techniquement, on l'a dit, c'est l'importateur qui paie les droits de douane, dans les faits, c'est le consommateur qui en absorbe le coût. Mais au-delà de l'exemple de la machine à café, ce mécanisme s'applique pour bon nombre de produits du quotidien consommé aux États-Unis. On peut penser à l'iPhone, évidemment, aux jouets, aux jeux, mais aussi à tout un tas de matériel électroménager dont les Américains sont ultra dépendants. Car Andréane, les tarifs douaniers jouent un rôle clé dans la détermination du prix que l'on paye.
Merci Stéphane Genest pour cette explication très concrète. 8h17 à Paris, tout de suite, c'est notre invité. Opposant au président russe Vladimir Poutine, il a passé 2 ans en prison en Sibérie et vit aujourd'hui en exil. Vladimir Karamurza est notre invité exceptionnel ce matin sur RFI. Il répond à Arnaud Pontus.
Bonjour Vladimir Karamurza.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous d'être sur RFI aujourd'hui. Il y a 3 ans, en avril 2022, vous avez été arrêté, puis condamné à 25 ans de prison pour haute trahison. La justice russe vous reprochait d'avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine. Vous avez été libéré en août dernier lors du plus grand échange de prisonniers avec l'Ouest depuis la fin de la guerre froide. Comment allez-vous aujourd'hui, 8 mois après votre libération ?
Ça me semble parfois encore que je regarde un film. Parce que, à dire la vérité, j'étais absolument sûr que j'allais mourir dans cette prison en Sibérie. Cet échange en août dernier, c'était un miracle. Et en fait, c'était le premier échange depuis 1986 qui a libéré non seulement les otages, les citoyens occidentaux qui étaient dans les prisons russes, mais aussi les prisonniers politiques russes. Et ça, pour moi, c'était un message très important, très clair et très fort. Des pays occidentaux, surtout les États-Unis et l'Allemagne. Et le signal était qu'ils comprennent très bien que les vrais criminels sont au Kremlin. Ce sont les gens qui ont commencé la guerre en Ukraine. C'était pas nous qui étions en prison parce qu'on nous avait exprimé contre cette guerre. Et c'était aussi un message très fort de solidarité de la part des pays occidentaux avec tous ces gens en Russie. Il y a des millions de gens en Russie aujourd'hui qui sont contre cette guerre, qui sont contre le régime autoritaire de Vladimir Poutine. Et c'est très important que le monde libre s'est exprimé comme ça.
Aujourd'hui, Vladimir Karamurza, la guerre continue en Ukraine. Les discussions pour un cessez-le-feu n'ont toujours pas abouti. Est-ce que vous le souhaitez, ce cessez-le-feu ?
Je veux que cette guerre termine le plus vite possible parce qu'il y a déjà des centaines de milliers de vies humaines qui sont perdues à cause de cette agression, à cause de cette guerre criminelle menée par le régime autoritaire de Vladimir Poutine.
Mais pour que la guerre s'arrête, il faut que Poutine le veuille. Est-ce que Vladimir Poutine veut la paix ?
Non, bien sûr, il ne veut pas la paix. Et il faut dire que vous avez utilisé la phrase « cessez le feu », ça c'est absolument correct. On ne veut pas dire la paix parce qu'il n'y aura pas de paix pendant que Vladimir Poutine reste au pouvoir.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de paix totale et véritable tant que Vladimir Poutine est au Kremlin.
Et de paix en long terme. À long terme, la seule façon d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité sur le continent européen à long terme, c'est d'avoir une Russie démocratique. Une Russie qui va respecter les lois, les droits et les libertés de nos propres citoyens et aussi qui va respecter les frontières de ses voisins et les normes du comportement civilisé dans le monde. Parce qu'en Russie, la répression à l'intérieur
et l'agression à l'extérieur vont toujours ensemble. Donc il n'y aura pas de paix pendant que Poutine reste au pouvoir, mais le cessez-le-feu est possible.
Alors vous dites aussi que tout accord de cessez-le-feu doit prévoir la libération de tous les prisonniers de guerre.
Absolument, ça, pour moi, ça c'est le plus important, parce que pour l'instant, on voit ces négociations entre les représentants de l'administration Trump aux États-Unis et le régime de Poutine en Russie, et ils parlent de des minéraux, ils parlent du retour des compagnies américaines en Russie, ils parlent des avoirs gelés, je sais pas de quoi.
Ils parlent d'argent.
Ils parlent tout le temps d'argent. Et en fait, les deux envoyés, Monsieur Witkoff de la côté américaine et Monsieur Dmitriev de la côté russe, ce sont les gens qui ont dédié leur vie en fait à l'argent, n'ont rien à faire avec la diplomatie. Et donc pour ça, c'est même plus important que l'Europe, l'Union européenne pose cette question. Comme vous avez dit, de la libération de tous les otages, de tous les captifs de cette guerre, parce que il y a des centaines de milliers de vies humaines qui ont été déjà perdues et on ne peut pas les faire retourner. Mais c'est possible encore de sauver les milliers de vies humaines, des gens qui sont des otages et des captifs de cette guerre. Je parle bien sûr des prisonniers de guerre de deux côtés. Je parle aussi des milliers d'otages civils ukrainiens qui ont été déportés en Russie.
Notamment les enfants.
Je parle aussi des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été kidnappés, en fait, si on dit la vérité, au territoire occupé par la Russie. Et ça c'est très important, je parle aussi des prisonniers politiques russes, les citoyens russes, mes concitoyens, qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont exprimés contre cette guerre d'agression menée par le régime de Vladimir Poutine.
Avant
absolument
d'être libéré.
Ce qui est arrivé à moi, mais maintenant, pendant qu'on parle avec vous, il y a, selon les organisations de défense des droits humains, il y a plus de 1500 prisonniers politiques en Russie. La catégorie la plus nombreuse parmi eux, ce sont les Russes qui se sont exprimés contre cette guerre criminelle. Et pour beaucoup d'eux, comme par exemple pour Alexei Gorinov ou Maria Ponomarenko et beaucoup d'autres, c'est pas seulement une question de captivité, c'est pas seulement une question d'emprisonnement illégal, mais c'est aussi une question de vie ou de mort. Et il faut sauver ces gens-là.
Vladimir Karamurza, vous nous dites, les émissaires russes et américains ne parlent que d'argent. Est-ce que la méthode qu'applique le président Trump vous semble être la bonne? Est-ce que vous comprenez cette logique?
Je crois que la politique de l'administration actuelle des États-Unis est honteuse. Elle est complètement contre-productive parce qu'en fait, c'est une politique de rapprochement, de normalisation des relations avec Vladimir Poutine. Et en fait, je voudrais rappeler à tout le monde que Vladimir Poutine, d'abord, il n'est pas un président légitime. Il reste au pouvoir depuis 25 ans, même s'il y a en limite constitutionnelle en Russie de deux termes. Il a trouvé des trucs pseudo-légales pour contourner en fait ce limite constitutionnel.
Pour rester au pouvoir.
Absolument. Et en fait, il faut rappeler aussi que l'année dernière, en 2024, le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont passé des résolutions reconnaissant Vladimir Poutine pour ce qu'il est, un usurpateur illégitime. Mais il est plus que ça. Il est aussi un assassin, il est un meurtrier, parce que c'est sous ses commandes les deux chefs principaux de l'opposition démocratique russe, Boris Nemtsov et Alexei Navalny, ont été assassinés. C'est sous ses commandes que il y a des gens qui meurent chaque jour en Ukraine, y inclus les enfants. Pendant toutes les 25 ans que Vladimir Poutine reste au pouvoir, il tue. Dans la Russie, il tue en dehors de la Russie. Et c'est important de rappeler, tous ces dirigeants occidentaux, surtout américains, qui veulent normaliser les relations avec Vladimir Poutine, qui veulent rendre cette légitimité à Vladimir Poutine qu'il ne mérite pas, et qui veulent encore une fois serrer la main de Vladimir Poutine. C'est important de le rappeler que c'est une main couverte de sang.
Où est l'alternative démocratique en Russie, Vladimir Karamurza?
Il y a des millions et des millions de gens en Russie qui sont contre cette guerre, qui sont contre ce régime, qui veulent que la Russie soit un pays normal, civilisé, européen, démocratique. On a vu par exemple l'année dernière, pendant le théâtre qui était nos élections présidentielles, entre guillemets. Mmh. Mais en même temps, il y avait un candidat, un avocat, un ex-député du Parlement russe, il s'appelle Boris Nadejdin, qui a annoncé qu'il va être candidat à la présidence russe comme un candidat anti-guerre. Il a dit qu'il est contre la guerre en Ukraine. Et la réaction publique était complètement incroyable. Tout d'un coup, on a vu tout autour de la Russie les files d'attente, les queues énormes des gens qui voulaient signer les pétitions pour faire registrer ce candidat. J'étais en prison à l'époque et je recevais beaucoup de lettres de tout autour de la Russie et presque chaque lettre était à propos de ces queues énormes, des gens qui votaient avec leurs pieds, si vous voulez, pour le candidat anti-guerre, parce que la propagande poutinienne veut que tout le monde croit que tous les Russes soutiennent la guerre, tous les Russes soutiennent le régime. Mais vous savez quoi? Ils peuvent falsifier les élections, ce qu'ils font. Ils peuvent falsifier les sondages, ce qu'ils font. Mais il n'y a rien qu'ils peuvent faire avec les images des milliers et des milliers et des milliers de gens tout autour de la Russie qui croient en un avenir démocratique et paisible.
Donc il y a une soif démocratique en Russie et au-delà.
Il y a beaucoup de gens qui veulent des changements, il y a beaucoup de gens qui veulent que ce régime finalement perd le pouvoir, et j'ai aucun doute, pas seulement comme un homme politique, mais surtout comme un historien, qu'un jour viendra, quand la Russie sera un pays normal, civilisé et démocratique, et ce jour-là, on pourra finalement avoir une Europe qui sera libre, entière et en paix.
Vladimir Karamurza, je le disais au début de l'entretien, vous avez été libéré en août dernier, après avoir passé 2 ans et 3 mois en prison. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps, dont 11 mois à l'isolement?
Absolument. En fait, selon la loi internationale, l'isolement de plus de 15 jours est officiellement considéré comme une forme de torture.
De la torture.
Et en fait, j'avais jamais compris pourquoi. Maintenant, je comprends très bien. Parce que quand tu restes tout le temps dans cette petite cellule, 4 murs, une petite fenêtre avec des barreaux métalliques, tu es tout le temps seul, tu ne peux pas parler à personne, tu ne peux aller nulle part, tu peux rien faire. Parce que, par exemple, même pour écrire, ils te donnent papier et stylo seulement pour 1 heure et demie pendant chaque jour, puis ils le prennent. Et donc, et aussi, c'était interdit pour moi d'appeler ma femme, d'appeler mes enfants, je pouvais pas contacter avec eux par téléphone. Ça, c'est une vieille pratique soviétique. Quand le régime veut punir non seulement les opposants politiques, mais aussi leur famille. Et c'est, je vais être honnête avec vous, c'est très difficile dans les circonstances comme ça de garder la tête, quoi. Et donc, il est très important de remplir la tête avec quelque chose d'important, remplir le cerveau, si vous voulez, remplir le temps aussi. Et donc, moi, j'apprenais l'espagnol. J'avais un livre que je lisais tout le temps, de matin au soir. J'apprenais l'espagnol et évidemment, je pensais jamais que j'allais l'utiliser parce que, comme j'ai déjà dit, je ne croyais pas que je vais sortir.
Partir, non. Sortir.
Mais après ce miracle de cet échange l'année dernière, il y a quelques semaines, j'étais à Madrid pour les rencontres, pour des réunions avec des députés espagnols. Je pouvais pratiquer et apparemment maintenant je peux parler l'espagnol.
Vous pouvez aussi parler espagnol.
Oui, mais donc même le temps en prison peut utiliser pour quelque chose de pratique.
À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? C'est celle d'un exilé. Est-ce que vous vous sentez libre?
Je me sentais libre même en prison. Parce que je restais toujours avec mes convictions, je restais toujours avec mes principes. Ils peuvent te mettre en prison physiquement, mais ils peuvent pas arrêter ton esprit, quoi.
Et est-ce que vous vous sentez menacé, observé, tout en étant en dehors de la Russie?
Je ne pense pas à ça, parce que c'est une route vers la paranoïa et c'est pas la route que je veux prendre. Je sais que j'ai raison. Je sais que ce que je fais est correct. Et je sais ce que je suis sur la bonne côté de l'histoire. Et donc, et je sais aussi ce qu'on fait avec nos collègues dans l'opposition démocratique russe, c'est important. Et je vais continuer à le faire malgré tout.
Merci beaucoup, Vladimir Karamurza, d'être venu sur RFI.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Et bonne journée.
L'opposant russe Vladimir Karamurza, il répondait aux questions d'Arnaud Pontus. Entretien à retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
conseils pour accompagner les parents qui vieillissent.
Demain,
comment lutter contre le harcèlement et la haine, une émotion destructrice.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la tour de Babel européenne? La diversité linguistique est-elle menacée? Nous serons en Angleterre pour voir comment les traducteurs littéraires défendent leur métier et en Irlande, où le gaélique est un marqueur politique et culturel en plein renouveau.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.
La Mastroc, Jarring Effects et RFI Talent présentent Zar Électrique.
Accompagné par les génies du Niger.
Découvrez Koyo, le premier album du trio franco-marocain de Marseille. disponible en vinyle, CD et sur toutes les plateformes.